Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. On continue de vous donner la parole, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons parler des malades jeunes. Entre 20 000 et 32 000 personnes reçoivent le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée avant 65 ans, un nombre infime par rapport aux 1,2 million de personnes malades en France. Et pour autant, l'impact sur la vie familiale et professionnelle reste majeur. Nous accompagnera pour cette émission Denise Trubel, vice-présidente France Alzheimer Gare, administratrice de l'Union France Alzheimer et puis ancienne gériatre au CHU de Nîmes. Bonjour Denise.
Bonjour.
Avec nous également Judith Mollard-Palacios, psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Denise, une première question pour commencer. On le sait, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Est-ce que cela veut dire qu'il y a plus de malades jeunes qu'avant ?
Alors la question n'est pas évidente. Dans la mesure où on manque de données chiffrées, je dirais au fil du temps, donc on ne sait pas combien il y en avait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il est probable qu'on a l'impression qu'il y a davantage de malades jeunes, peut-être parce qu'on les diagnostique un peu mieux et que, comme c'est une catégorie de patients qui pâtissent de l'errance diagnostique, peut-être que nous sommes en train de corriger cet aspect-là. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse tout à fait simple à cette question.
Alors, c'est d'ailleurs toute la problématique dans cette maladie. Ça ne peut jamais être des réponses simples puisque chaque cas est particulier. Judith, même si ce n'est pas une question simple, comme vient de le dire Denise, est-ce que vous, dans votre quotidien professionnel, vous rencontrez plus de malades jeunes qu'avant ?
Oui, en effet, hein, sans pour autant être certain qu'il s'agisse d'une plus grande une plus grande fréquence des personnes atteintes jeunes, mais ce qui est notable et nos associations départementales nous le font entendre, c'est que de plus en plus de personnes malades jeunes prennent l'initiative de chercher de l'information, de chercher du soutien auprès notamment de nos associations et pour certaines avec une volonté de pouvoir bénéficier de dispositifs adaptés, une volonté même de pouvoir témoigner de leur expérience, de leur vécu et pour certains, de pouvoir peut-être apporter même de l'aide à d'autres, vraiment dans une position en tout cas active, une position de garder un pied dans la vie sociale, dans la vie associative.
Est-ce qu'on peut dire que les malades jeunes arrivent à puiser plus longtemps dans ce qu'on appelle une réserve cognitive et ça va compenser finalement leurs troubles et c'est ça qui va donner le change ? Est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est encore une fois du cas par cas ?
C'est tout à fait réel. Effectivement, la réserve cognitive est plus importante, du moins statistiquement. Ceci explique précisément les difficultés diagnostiques parce que, comme vous le dites, ils peuvent donner le change. On se rend moins facilement compte des problèmes cognitifs. On va davantage mettre en avant les modifications de comportement, le fait que la personne n'a plus la même énergie, n'a plus les mêmes initiatives, devient un peu plus apathique. Ça va expliquer aussi un autre élément qui est souvent noté dans cette catégorie de personnes malades, c'est que l'évolution, une fois que la maladie devient symptomatique, l'évolution est statistiquement plus rapide que des personnes débutant plus tard. Probablement parce que on arrive au bout des possibilités de compensation et il peut arriver que l'évolution donc soit un peu plus rapide.
Alors Judith, peut-être une réaction sur la compensation dont parle Denise. Est-ce que vous y êtes confrontée ?
Ce que l'on peut dire, en tout cas d'un point de vue clinique, sans forcément généraliser, mais que pour les personnes malades jeunes, même si l'annonce diagnostique est évidemment un séisme qui touche profondément l'équilibre psychologique de la personne qui est confrontée, évidemment de son entourage, Cependant, ce que l'on peut constater, c'est que certaines d'entre elles vont pouvoir mobiliser des ressources, alors bien sûr des ressources cognitives comme Denise vient de l'évoquer, mais aussi des ressources psychologiques. Il y a une énergie finalement psychique qui pour certaines personnes est mobilisable, peut-être plus que pour un sujet âgé, voire très âgé, des ressources psychologiques pour faire face à ce qui arrive, pour renégocier un projet de vie, pour le réadapter. Je pense même à une personne malade jeune qui a éprouvé le besoin, avec l'aide d'un psychologue, d'écrire son projet de vie en intégrant la maladie, en intégrant l'évolution de sa maladie pour pouvoir garder ce qu'on pourrait appeler du pouvoir d'agir, c'est-à-dire anticiper la suite et avoir encore la possibilité de décider ce que elle souhaite pour l'avenir, pour maintenant, mais aussi pour demain. Donc il y a en effet chez les sujets jeunes une capacité de ce qu'on pourrait appeler de résilience en tout cas, qui va permettre, malgré tout l'impact que représente l'installation des symptômes et leurs répercussions dans la vie quotidienne et dans l'autonomie, mais malgré tout, une capacité à agir, à ne pas subir la situation. Il en va de notre responsabilité de soignants, d'aidants professionnels, d'aidants familiaux, à encourager, soutenir cette énergie psychique. Et ça me semble très, très important. Et c'est ce que d'ailleurs fait France Alzheimer en proposant notamment un programme construit sur l'éducation thérapeutique du patient, un programme Vivre avec la maladie pour outiller les personnes malades à faire face à ce qui leur arrive dans leur quotidien, mais aussi dans leurs relations avec leur entourage.
Est-ce qu'on pourrait parler peut-être aussi des premiers troubles chez les malades jeunes ? Quels sont-ils ? Sont-ils les mêmes que chez les malades un petit peu plus âgés ?
Alors, chez les malades plus âgés, le plus souvent, c'est les troubles de la mémoire. Chez les malades à début jeune, les troubles de la mémoire ne seront pas majoritaires. On va rencontrer au début des troubles sur le plan cognitif un peu différents. En particulier, on sait que les troubles du langage sont assez souvent présents dès le début, des difficultés à trouver les mots exacts, se tromper dans le choix du vocabulaire, où on peut avoir des formes particulières qui vont être plus souvent présentes, comme des formes à troubles visio-perceptifs. Les premières plaintes de la personne, elle va dire qu'elle ne voit pas comme avant. Et là aussi, ça conduit à une autre variante d'errance diagnostique. Ces personnes-là vont aller voir un premier ophtalmologue qui ne trouve pas d'anomalie, un deuxième, etc. Puis qui va dire, à un moment donné, ça se passe dans votre tête et va envoyer chez le psychiatre au lieu d'envoyer chez le neurologue. Donc c'est les formes débutent souvent par d'autres symptômes que simplement les troubles de la mémoire.
Et puis vous venez de le dire, il y a aussi une confusion souvent chez ces malades jeunes avec des pathologies de type dépression.
Tout à fait. Alors, les symptômes dépressifs existent réellement très souvent au début, même en âge avancé. Le médecin qui va être confronté à une personne qui débute des troubles à 60 ans ou voire même en dessous de 60 ans, il va penser d'abord dépression bien avant de penser maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. De plus, j'ajoute aussi que autant la maladie d'Alzheimer est la première cause très nettement pour les personnes débutant tardivement, chez les personnes plus jeunes, c'est d'autres diagnostics qui peuvent être envisagés en dehors de la maladie d'Alzheimer. C'est des maladies dites apparentées qui sont plus fréquentes dans cette tranche d'âge.
Alors Judith, ces symptômes que vient d'évoquer Denise, ils sèment le trouble et puis cela conduit les patients à ce qu'on appelle l'errance de diagnostic. Comment est-ce vécu par les malades ou encore les familles ?
Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'observer voilà, des symptômes, que ce soit par la personne elle-même ou par son entourage, et de ne pas avoir en face, hein, une réponse claire sur la cause, hein, de ces symptômes. C'est souvent dramatique d'ailleurs quand il y a une orientation vers une pathologie plutôt psychiatrique. Et donc on voit, hein, certains patients recevoir des traitements contre les troubles du comportement et de l'humeur, mais qui ne sont pas articulés, hein, avec une maladie neuroévolutive. Et donc voilà, je pense que de ne pas pouvoir nommer les choses, c'est finalement, ça a des répercussions tout à fait dramatique parfois, hein, dans certaines situations. Et nommer les choses, même si recevoir un diagnostic de maladie neuroévolutive est quelque chose de très dur, très difficile, mais en même temps, c'est la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe en nous et de pouvoir là aussi savoir comment se positionner par rapport à ça et de mettre en œuvre, hein, voilà, des stratégies, une orientation de vie, de se mobiliser, hein, d'un point de vue familial autour de ce que l'on peut identifier, hein. Quand on ne peut pas identifier les choses, c'est encore plus difficile et très anxiogène. Et les personnes malades, hein, le disent, c'est-à-dire que même si c'est une annonce douloureuse à recevoir, en même temps, c'est comme un soulagement parfois, hein. Au moins, je sais de quoi il s'agit et contre quoi, hein, je dois me battre et m'organiser.
Mais alors, du coup, pour les familles de malades jeunes qui nous écoutent, que conseiller quand on a des doutes sur le diagnostic ou encore sur ce dont souffre notre proche? Est-ce la maladie d'Alzheimer? Est-ce une maladie apparentée ou est-ce carrément autre chose? Que leur conseiller? Parce que c'est souvent compliqué de se retrouver avec toutes ces informations.
Tout à fait. Je pense que si une famille remarque chez un de leurs proches des symptômes qui associent des modifications de comportement et peut-être des troubles cognitifs, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les consulter, une consultation en mémoire ou un spécialiste neurologue, gériatre, avec cette question: est-ce qu'il ne s'agit pas d'une maladie de catégorie maladie neurodégénérative? C'est ce type de spécialiste où la consultation en mémoire, c'est l'endroit où ce diagnostic peut être éventuellement rectifié ou interrogé, en tout cas exploré. Donc il ne faut pas hésiter à demander au médecin généraliste de diriger vers une consultation spécialisée.
Et puis enfin, dernière question, on en parle très souvent aussi sur cette antenne, les conséquences sur la vie professionnelle et familiale, est-ce qu'elles sont plus importantes chez un malade jeune que chez des personnes âgées?
Absolument, absolument, pour une raison déjà très, très évidente, c'est que le malade jeune est encore en activité professionnelle. La personne de 70 ans, en principe, a arrêté son activité professionnelle. Et c'est d'ailleurs souvent dans le milieu professionnel que sont constatées les premières anomalies, les premiers changements de comportement ou les premières défaillances du fonctionnement cognitif. Ça peut être source d'une souffrance supplémentaire pour la personne qui va être mise en cause dans son travail et qui va parfois être licenciée avant qu'un diagnostic soit posé. Donc vous imaginez les conséquences dramatiques de ce genre de situation. Il arrive assez souvent que c'est le chef d'entreprise, les collègues de travail qui remarquent les premiers symptômes, avant même que la famille, l'entourage familial ne s'inquiète.
Alors Judith, ce que dit Denise sur les collègues, ce sont eux qui alertent finalement sur les premiers signaux de la maladie. Ce sont des retours que vous avez déjà eus. C'est vrai qu'il y a un petit côté dramatique que ça commence comme ça finalement.
Ce qui est dramatique, c'est en effet les répercussions que cela entraîne d'un point de vue d'une rupture souvent très brutal avec son investissement, son activité professionnelle, hein, qui a évidemment des répercussions financières, mais qui a aussi des répercussions importantes sur l'estime de soi. C'est-à-dire que quand on est écarté de son activité professionnelle pour incompétence, sans que la cause en soit identifiée, c'est évidemment une blessure narcissique importante. C'est évidemment très difficile à vivre pour les personnes malades qui ont le sentiment souvent que les choses basculent, contrairement au sujet âgé, mais que du coup les choses basculent presque du jour au lendemain. Quand on perd son statut professionnel, mais que ça entraîne aussi une perte de son statut social et parfois même de sa place au niveau familial. Chez les sujets jeunes, certainement beaucoup plus que chez les sujets âgés, la maladie va avoir une conséquence directe sur l'organisation du couple, l'organisation même de la famille, notamment quand il y a encore des enfants, adolescents ou même jeunes adultes. Ça remet en cause, ça bouleverse l'organisation du système familial, de la place de chacun. Et ce sont évidemment des remaniements complexes qui ont une incidence certainement plus importante que chez un sujet âgé, voire très âgé, dont les enfants sont des adultes depuis longtemps. Là, on voit comment il y a une incidence plus forte.
Et puis, pour terminer, Denise, peut-être un dernier mot pour justement ces familles qui ont ce diagnostic qui est tombé. C'est forcément pas facile, on le sait. Que leur dire? Parce que l'abattement est là, bien entendu. Que leur dire justement à ces familles?
Le mot ou la phrase répétée très souvent par France Alzheimer, c'est ne pas rester seul face à la maladie. Donc savoir demander de l'aide. L'aide, elle peut venir bien sûr d'abord des professionnels, ensuite du milieu associatif, d'autres familles, d'autres aidants. Il faut ne pas s'enfermer dans cette maladie. C'est un des dangers de la maladie, c'est de s'enfermer à deux, la personne malade avec son aidant. Et ça, c'est sous de grande souffrance. Alors que l'ouverture vers l'extérieur, en acceptant l'idée de demander de l'aide, va ouvrir des perspectives, des possibilités nouvelles pour la personne malade de mieux vivre avec cette maladie, faire face aux soucis du quotidien, mettre en place des stratégies. Ensuite, pour l'ensemble du milieu familial, de réajuster le mode de fonctionnement dans la famille. Il y a des possibilités de gagner un peu en mieux-être malgré la maladie. Donc, ne pas rester seul, c'est le maître mot.
Judith, ne pas rester seul, c'est le maître mot. C'est une phrase très forte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et puis surtout, est-ce que vous avez un autre conseil pour ces familles qui nous écoutent?
Oui, alors il est évident que de ne rien dire de ce qui se passe dans le huis clos familial avec l'apparition et l'installation, l'évolution de la maladie va avoir des effets très, très délétères pour le patient, pour son entourage, d'autant plus que la plupart du temps, pour les malades jeunes, le conjoint est encore en activité professionnelle et donc il est impératif que la personne malade puisse le plus tôt possible et le plus vite possible bénéficier des dispositifs qui peuvent lui être proposés, même s'ils sont encore aujourd'hui très insuffisants, c'est certain. Il y a les dispositifs proposés par le médico-social et puis les dispositifs proposés par nos associations France Alzheimer. Nous avons mis en place un accompagnement, un suivi personnalisé malade jeune où on va, avec un binôme psychologue et bénévole, intervenir au domicile du couple, de la famille, pour identifier les besoins et surtout pour orienter vers ce qui peut être mis en place, proposer à la personne malade d'être intégrée dans des activités qui vont avoir du sens pour elle et qui vont lui permettre de mobiliser ses compétences préservées, de pouvoir continuer à être en interaction sociale. c'est extrêmement important. Et puis pour l'aidant familial, d'avoir un soutien adapté, une écoute spécifique, éventuellement de rencontrer d'autres aidants confrontés à une situation semblable, c'est évident qu'il ne faut pas rester seul et qu'il faut oser aussi parler de ce qui nous arrive, oser parler de la maladie et recevoir les soutiens à disposition. Je crois aussi que pour les personnes malades jeunes, certaines d'entre elles souhaitent continuer à être impliquées dans la société, ne peuvent pas comme ça du jour au lendemain se retrouver seules chez elles sans plus rien à faire. Elles souhaitent s'impliquer, elles souhaitent pouvoir encore se projeter dans une vie qui a du sens, dans une vie où elles peuvent encore se rendre utiles. Enfin, tout ça ne peut se faire sans l'aide des autres, des bénévoles, des professionnels. Et c'est très important donc de dire à ces familles d'oser, de prendre contact avec les dispositifs existants.
Eh bien, merci beaucoup pour ces mots, Judith Mollard-Palacios. Merci également à vous, Denise Strubel, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.